RFI Matin, la suite, c'est un nouveau journal. Dans moins de 20 minutes à présent, et un coup de fil à Jérusalem, alors qu'Israël a accepté hier une proposition américaine de cesser le feu, mais que le Hamas se dit insatisfait. Que contient ce projet de trêve de 60 jours? Michel Paul nous le dit à 6h, temps universel. Mais tout de suite, les sports. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Julien.
Le football à 24 heures de la finale de la Ligue des Champions. Paris s'envole ce vendredi pour Munich.
Où le PSG disputera la finale de la C1 face à l'Inter Milan. L'Allianz Arena, camp de base du Bayern qui avait battu les Parisiens il y a 5 ans, les privant de la coupe aux grandes oreilles. Paris a donc rendez-vous avec son histoire. Et partout en Afrique, on se prépare à l'événement. À Abidjan, en Côte d'Ivoire par exemple, supporters parisiens et milanais affinent leurs arguments en faveur de leurs favoris. C'est ce qu'a pu constater notre correspondant Molamine Sissavané.
Attablé par grappe dans un maquis et presque indifférent au grand écran qui passe Roland Garros, des clients mangent, boivent et devisent. Dès qu'on leur parle Ligue des Champions, les échanges s'intensifient. Sylvain Aka est interiste depuis l'époque de Samuel Eto'o. Pour lui, le système italien va neutraliser le PSG.
Nous les Italiens, on a une façon de jouer. On va laisser le PSG faire son jeu et puis planter quelques buts. Moi-même, ça me fait un peu mal pour le PSG. Il y a longtemps qu'ils courent derrière le trophée, mais l'Inter aussi, ils n'ont pas assez de trophées.
Hein. Ignace Werrason est supporter du PSG. Le manque de réussite du club ces dernières années, malgré ses stars, est derrière lui.
Quand on a pris les stars, ils n'ont pas donné les trophées qu'ils devaient prendre cette fois-ci-là. Les joueurs qui ont fait remporter la finale, ils vont la prendre, c'est sûr.
Un peu plus loin, dans une ambiance feutrée, on rencontre un autre fan du PSG.
Je suis un supporter du PSG depuis 1989.
Ousmane Diabaté est président du fan club PSG, fondé en 2015. Il a vécu tant de choses avec son club. Et pour la finale du samedi...
Ce sera une très belle finale, mais après, ce sera très rude. On pense qu'avec Luis Enrique, ce sera cette fois-ci la bonne. Le collectif qui est là aujourd'hui, ils se battent ensemble. Et ce sont ces détails qui peuvent faire la différence.
C'est aussi ensemble que les membres du fan club vont suivre la finale, avec l'espoir qu'enfin, leur équipe favorite décroche la précieuse coupe aux grandes oreilles. Molamine Sissavané, Abidjan, RFI.
Un mot de la Ligue 1 que retrouve le FC Metz.
Grâce aux gamins de Génération Foot, Alpha Touré, 19 ans, buteur en prolongation... Avant que papa Amadou Diallo, 20 ans, n'adresse une passe décisive à Gauthier Hein pour le but du 3-1 face à Reims. Les Messins, vainqueurs donc de leur barrage retour face au Rémois du Sénégalais Yevan Diouf et de retour en Ligue 1 un an après l'avoir quitté.
En basket, Pascal Siakam performant mais Indiana s'incline.
L'ailier camerounais, auteur de 15 points, 6 rebonds et 5 passes, mais ça n'a pas suffi puisque les Pacers se sont inclinés 111 à 94 en finale de conférence Est de la NBA. Les Knicks de New York reviennent ainsi à 3 victoires à 2 dans la série et ça permet au partenaire du Nigérian Precious Achiuwa de remettre la pression sur Indiana. Les New Yorkais devront s'imposer à Indianapolis samedi s'ils veulent revenir dans le Madison Square Garden pour un éventuel match 7.
En tennis, enfin fin de parcours pour Gabriel Diallo à Roland-Garros.
Le Canadien, dont le papa est guinéen, a logiquement plié face au néerlandais Talon Grigsport à qui il rend une vingtaine de places à l'ATP. Diallo n'a pu s'offrir que le troisième set. Il s'incline assez nettement, 5-7, 6-7, 6-1, 3-6. Ce vendredi, début du troisième tour dans le tableau féminin avec Victoria Mboko sur le court. Premier grand chelem de sa carrière et la Canadienne d'origine congolaise affronte la tête de série numéro 8, Qinwen Zhang. Premiers échanges à partir de 9h TU sur le court Simone Mathieu.
Merci Antoine Grenier, à tout à l'heure. Et c'est un rendez-vous qui se termine aujourd'hui au Congo-Brazzaville, le tout premier congrès des peuples autochtones et des populations locales des bassins forestiers. Réunis depuis lundi, dirigeants autochtones, représentants de communautés et défenseurs de l'environnement, tous déterminés à défendre les écosystèmes forestiers les plus vitaux de la planète. L'événement vise à obtenir une déclaration commune en amont de la COP30 prévue à Belém au Brésil en novembre. Et on en parle ce matin avec notre grand invité Afrique, Bonaventure Bondo, chargé de campagne forêt pour le bassin du Congo à Greenpeace Afrique. Il nous répond au téléphone d'Alexandra Branjon.
Bonaventure Bondo, bonjour.
Bonjour madame.
Le premier congrès des peuples autochtones issus des 3 grands bassins forestiers de la planète, c'est-à-dire Amazon, Bornéo, Mékong et bassin du Congo, s'est ouvert cette semaine à Brazzaville. Alors quand on parle des populations autochtones du bassin du Congo, de qui s'agit-il exactement ?
Ces termes renvoient d'emblée aux communautés pygmées, même si le mot pygmée est en train de disparaître, qui vivent dans la forêt ou qui développent le lien étroit avec les forêts tropicales.
Dans quel pays ?
Et ces communautés sont réparties dans presque tous les pays du bassin du Congo. En RDC, nous avons les Tchouas et les Akas, De même pour la République du Congo, Cameroun, nous avons les Baka qui s'étendent aussi au niveau du Cameroun et de la Guinée équatoriale.
Alors ces populations, qu'elles soient de la RDC, de Centrafrique, partagent les mêmes problématiques entre la reconnaissance de leurs terres ancestrales.
Oui, ils font face aux mêmes défis, surtout liés à la reconnaissance de leurs terroirs ancestraux, parce qu'ils sont les premiers habitants, ils sont les détenteurs de ces forêts sur les plans traditionnels. Et avec l'expansion du développement axé sur le néocolonialisme dans le bassin du Congo, notamment l'exploitation industrielle du bois, le développement de l'agriculture industrielle aussi, avec la plantation de palmiers à huile, ces communautés ont été plusieurs fois exposées à certains abus liés à la violation de leurs droits, à l'accaparement de leurs terres. Et dès lors, ils ont commencé à relever cette nécessité pour eux d'être reconnus, d'avoir une reconnaissance légale sur leurs terres et d'avoir une reconnaissance aussi légale à gérer leurs terres comme ils le font toujours depuis des années. Le premier pays à prendre cette décision a été le Congo-Brazzaville et ensuite la République démocratique du Congo avec sa loi venue sur la promotion et la protection des peuples autochtones pygmées. Il y a un peu d'avancée, mais il y a encore beaucoup à faire pour que nous puissions arriver à sécuriser légalement les terroirs des communautés locales partout dans le bassin du Congo.
Concrètement, quelles sont leurs revendications?
Ils revendiquent la reconnaissance de leurs terres, leur prise en compte dans le processus des décisions parce qu'ils sont pour la plupart et toujours mis de côté lorsqu'il faut décider sur l'avenir de leurs terres. Ce sont les projets d'exploitation du pétrole, d'exploitation des mines, d'exploitation du bois. Ils sont souvent mis de côté. Ils revendiquent aussi être associés, prendre part aux instances de prise de décision dans la gouvernance des ressources naturelles sur leurs terres.
Alors, la ministre congolaise de l'économie forestière a regretté que moins d'1% des financements disponibles ne leur parviennent et que malgré leur expertise, ils sont peu impliqués dans les programmes de développement durable. Pourquoi est-ce que c'est le cas?
Le fait qu'ils sont toujours mis de côté se justifie par le fait qu'ils n'ont pas des capacités nécessaires, ils n'ont pas de connaissances, ils n'ont pas de compétences. Et ce qui est vraiment faux, et ce que les communautés sont en train de revendiquer maintenant pour dire qu'ils ont aussi, dans leur façon de faire les choses, grâce au savoir traditionnel et connaissances endogènes, des initiatives très, 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 très promettrices, les initiatives très louables qu'ils mettent en œuvre pour protéger les forêts. Et ces initiatives ou ces efforts doivent effectivement être reconnus à leur juste valeur pour qu'ils poussent aussi bénéficier de cette confiance. Il y a d'abord un problème de confiance dans la distribution des fonds. Il faut que les communautés autochtones aujourd'hui puissent être reconnues capables de bien gérer ces fonds et de bien continuer à développer leurs initiatives. Et c'est vraiment la question qui est au cœur du débat pour voir comment est-ce que dans tous les mécanismes financiers qui existent, qu'il y ait une part allouée directement aux communautés locales.
Alors justement, votre organisation Greenpeace a mis sur pied un projet Forest Solution, donc pour voir comment rehausser le travail de ces communautés dans la préservation des forêts.
L'objectif, effectivement, c'est promouvoir les initiatives locales dans la protection de nos forêts, mais non seulement le promouvoir, mais aussi pousser en sorte que les communautés locales puissent avoir accès aux connaissances, aux informations et à un partage d'expériences entre les autres peuples autochtones des autres bassins tropicaux qui sont, selon les constats, beaucoup plus avancés. Et à travers ces projets, nous voulons vraiment faire en sorte que ces communautés soient connectées, puissent partager l'expérience pour construire des recommandations fortes et communes pour faire bouger les lignes dans les instances décisionnelles au niveau national, régional et international.
Quand vous dites ce sont les premiers gardiens des forêts qu'ils protègent depuis des générations, est-ce que vous pouvez me donner un exemple concret?
L'expertise aujourd'hui qui est louable, c'est la foresterie communautaire que nous sommes en train de cibler comme l'une des solutions aux forêts. Dans ce processus, les communautés ont droit à avoir des titres de concession sur leurs forêts et aussi ont droit de développer des activités à caractère économique, donc dans leurs concessions. Ils exploitent leurs concessions à leur manière, de façon durable, pour à la fois protéger les forêts, conserver la biodiversité et aussi améliorer leurs conditions de vie socio-économiques.
Donc exploiter tout en protégeant. Bonaventure Bondo, je vous remercie.
Merci beaucoup madame.
Bonaventure Bondo, chargé de campagne forêt pour le bassin du Congo à Greenpeace Afrique, invité RFI d'Alexandra Branjon. Et dans l'actualité des matières premières, ce matin, une petite révolution dans le secteur minier. Le géant mondial Anglo-American se sépare de ses mines de platine en Afrique du Sud. Anglo-American Platinum devient une entité autonome et prend le nom de Valterra. Bonjour Marie-Pierre Olfin.
Bonjour.
La branche sud-africaine d'Anglo-American devient donc indépendante dans un contexte difficile pour le secteur des platinoïdes.
Oui, on parle d'un groupe de 6 métaux, parmi eux notamment le palladium et le rhodium que l'on retrouve dans les pots catalytiques des voitures. Leur prix s'est envolé après la pandémie et au début de l'invasion de l'Ukraine, mais la bulle a éclaté en 2023. Et depuis, l'Afrique du Sud accuse le coup. Le pays est le premier producteur mondial de platine, d'où l'on extrait le palladium et le rhodium notamment. Les grands groupes présents dans le pays ont dû s'adapter et pour certains se restructurer et licencier du personnel. Pour ne rien arranger, des inondations ont mis à l'arrêt en début d'année la production d'une importante mine dans la province du Limpopo, mine exploitée par l'ancienne filiale d'Anglo-American. Un contexte difficile pour cette société devenue donc Valterra Platinum. Selon une note de la banque UBS, l'entreprise pourrait afficher d'ici fin juin une dette nette de 400 millions d'euros environ.
Du côté de la demande en platinoïdes, c'est toujours l'incertitude qui domine.
Oui, au premier trimestre, la demande de bijoux en platine a augmenté de près d'un quart. Une bonne nouvelle liée à la flambée des cours de l'or. Mais les débouchés des platinoïdes restent essentiellement liés à l'automobile. Le décollage ou non de la demande pour les véhicules électriques et la fin des pots d'échappement qui va avec sera donc déterminant pour l'avenir du platine, du rhodium et du palladium. D'autres sous-métaux du groupe, tels que l'iridium, pourraient en revanche, eux, trouver un nouvel élan avec le développement de la filière hydrogène, une filière sur laquelle mise l'Afrique du Sud.
Et en l'état actuel, c'est une troisième année de déficit qui s'annonce pour le marché du platine.
Oui, les disponibilités seront inférieures à la demande encore cette année et comme les déficits s'enchaînent, ils font baisser les stocks et pourraient créer de la tension sur le marché. Les prix ont d'ailleurs nettement rebondi depuis la publication des prévisions 2025 par l'organisation mère qui regroupe de nombreux producteurs il y a quelques jours. Comme d'autres analystes, le PDG de Valterra Platinum table lui-même sur des perspectives de prix positives.
Marie-Pierre Olfan pour les matières premières, merci beaucoup. Et dans les dessous de l'Infox, direction l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, à quelques jours maintenant du Hajj, le grand pèlerinage des musulmans à la Mecque, il débute mercredi. Mais déjà cette semaine, une fausse information a circulé à propos du prétendu crash d'un avion rempli de fidèles venant de Mauritanie. Bonjour Olivier Four.
Bonjour.
Cette Infox s'est répandue sur les réseaux sociaux. Tout était faux, mais les autorités mauritaniennes ont quand même dû publier un communiqué pour couper court à la rumeur, tant les messages de condoléances s'étaient multipliés.
Oui, cette fausse information a suscité une vive émotion au Sahel, au Sahara, en Afrique du Nord notamment. On l'a retrouvée sur les plateformes X, Facebook ou TikTok. Sur les posts en question, on peut lire « Un avion de pèlerins mauritaniens s'est écrasé en mer Rouge, faisant plus de 200 morts ». L'infox est généralement accompagnée d'images sorties de leur contexte ou générées par IA.
Et le public y a cru ?
Oui, au moins dans un premier temps, en jugé par le nombre de témoignages de soutien aux familles des victimes postés juste après l'annonce du crash. L'infox est apparue autour du 27 mai. Elle a eu peu de retentissement en Europe, mais en Afrique, une multitude d'utilisateurs l'ont immédiatement commentée. Le site en ligne CNews au Sénégal, qui a fait un travail de vérification pour démonter cette infox, écrit par exemple « La diffusion de fausses informations autour du Hajj est malheureusement courante à l'approche de la saison du pèlerinage, une période sensible où des millions de fidèles se rendent en Arabie Saoudite. Ces fausses nouvelles jouent sur l'émotion collective pour générer du clic ou faire du buzz au détriment de la vérité et de la sérénité des proches des pèlerins. » Fin de citation.
Est-ce qu'on pouvait facilement démontrer que cette information était fausse ?
Oui, sur les réseaux sociaux, beaucoup ont cherché à établir les faits, des fact-checkers comme de simples contributeurs. Effectivement, face à une nouvelle comme celle-là, le premier réflexe, c'est d'aller consulter des sites sérieux, des chaînes nationales ou internationales pour voir si elles parlent de ce crash. Il est évident que 200 morts dans l'accident d'un avion pour la Mecque, ça ferait la une des journaux partout dans le monde. Ensuite, les images que l'on trouve dans ces infox sont impressionnantes, mais ne concordent pas avec ce que l'on pourrait découvrir sur le site d'un accident aérien, surtout si l'avion est tombé en mer, où finalement on ne retrouve le plus souvent que quelques débris qui flottent à la surface.
Alors, comment avez-vous fait pour détecter ces infox ?
Les principales images qui circulent autour de cette infox montrent des carlingues en feu. Pour l'une, il s'agit visiblement d'une IA, pour l'autre, d'une image sortie de son contexte. Pour l'IA, nous avons trouvé des invraisemblances, comme ces hublots carrés qui n'existent pas sur les avions de ligne d'aujourd'hui. Le modèle représenté n'a pas grand-chose à voir avec les Boeing de Mauritania Airlines. Concernant la photo de face d'un avion dévoré par les flammes, une recherche par image inversée nous permet de retrouver son origine. Il s'agit d'un appareil cargo incendié en 2007 sur l'aéroport de Pointe-Noire au Congo et en aucun cas d'un avion de ligne mauritanien en 2025.
Et les autorités ont très vite dénoncé cette tentative de désinformation.
Dans un communiqué officiel, Mauritania Airlines a précisé que les rumeurs concernant ce crash circulant sur les réseaux étaient totalement infondées. Tous les pèlerins mauritaniens ont atterri en sécurité et aucun incident n'a été enregistré. Les autorités mauritaniennes ont également démenti. Ces réactions officielles sont intervenues rapidement, dans les heures qui ont suivi l'apparition de l'Infox, sans pour autant stopper sa propagation.
Olivier Four pour Les Dessous de l'Infox, merci beaucoup. L'émission Les Dessous de l'Infox que vous retrouvez ce soir à 17h30, temps universel. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez en ce vendredi matin. Bienvenue aussi si vous nous écoutez sur YouTube. Vous êtes quelques milliers et on dit bonjour notamment à Patient qui nous écrit depuis Lubumbashi. Evelyne qui nous dit bonjour depuis le Kenya ou Benjamin qui nous écrit depuis l'Itouri, bienvenue à vous. Il est presque 6h en temps universel.
Émission spéciale, appel sur l'actualité est à Abidjan. Juan Gomez.
En Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle sera-t-elle apaisée? Plusieurs figures de la vie politique sont inéligibles. L'opposition réclame un audit du fichier électoral et une réforme de la commission électorale. À 5 mois du scrutin, nous lançons le débat avec les représentants de plusieurs partis politiques.
Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.
L'atelier des médias. Steven Jambeau.
Âgé de 27 ans, Gaspard G se présente comme créateur de contenu d'information. Sur YouTube, plus d'1,3 million d'abonnés suivent ses vidéos de qualité, des portraits de personnalités de ce monde, mais aussi des reportages et des enquêtes. Gaspard G me raconte, dans l'atelier des médias, son approche et son positionnement dans l'écosystème informationnel. Rendez-vous dimanche à 11h10 TU sur RFI.